Voilà, je disais que au cours des différentes retraites, on reprend les mêmes thèmes constamment parce que c'est des thèmes essentiels, mais que finalement, ils sont toujours compris différemment. Pour moi, ils sont toujours compris différemment. Je dois dire, dans la pratique, le sens s'affine de ces thèmes essentiels et que peut-être que j'avais cru comprendre ce dont il s'agissait et finalement, je me rends compte avec la pratique qui continue à se développer qu'il y a des aspects un petit peu plus subtils qui se révèlent. Donc ce soir, je vais parler de sati, donc on traduit en anglais par mindfulness. Évidemment, c'est un thème qui revient souvent. Ici, il revient dans les cinq qualités spirituelles, dans les sept facteurs d'éveil. C'est un thème qu'on retrouve constamment, qui est extrêmement riche, mais aussi qui est dans le fond assez difficile à cerner. On peut donner évidemment pas mal de choses, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut comprendre que dans l'expérience elle-même. Même si dans la manière d'expliquer, de décrire, on essaie de donner des éléments qui permettent de nous en approcher. Et aussi, je crois qu'on essaie de décrire ce que ça n'est pas. Et ça aide aussi de pas tomber dans la confusion. Donc, sati, c'est vraiment, mindfulness, c'est vraiment le cœur du chemin bouddhiste. On le retrouve dans tellement de différents groupes, qui fait toujours partie d'ensemble, à nouveau, comme les cinq facteurs, les cinq facultés spirituelles ou les sept facteurs d'éveil. Et cette qualité de sati, qu'on va le voir, c'est quelque chose qui se développe, qui s'affine constamment au cours de la pratique. Je crois qu'on commence par une compréhension un petit peu plus vague, et puis dans l'expérience elle-même, je crois que ceci se précise. Si je vois dans mon cheminement, je crois que pendant longtemps, je comprenais cette pratique-là de manière complètement erronée, extrêmement limitée. Peut dire que le terme sati, il est utilisé dans deux cas très spécifiques dans la tradition bouddhique. Dans les deux cas, on peut le traduire par mindfulness, mais en français, on ne peut pas les traduire par le même terme. Je crois que le terme mindfulness est assez vague en anglais pour pouvoir décrire ces deux différents usages, mais je crois qu'en français, il faudrait faire une différence entre l'attention et puis ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc différencier l'attention et la pleine conscience. L'attention, c'est évidemment quelque chose que nous connaissons bien. Il n'est pas possible de fonctionner dans la vie quotidienne sans attention. On en a constamment. On développe ceci depuis un très jeune âge. Donc, la développer de manière un petit peu plus précise dans la méditation, ça ne pose pas de problème de compréhension. On comprend bien ce dont il s'agit. On développe quelque chose qui est déjà présent. Alors que la pleine conscience, sati dans son deuxième terme, est quelque chose qui n'est pas un outil, qui n'est pas quelque chose qu'on utilise. La pleine conscience, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise. Hein. Ce n'est pas un outil, c'est quelque chose qu'on est. On verra cette différence. Donc l'attention, on peut la diriger vers différents phénomènes. Dans la vie quotidienne, dans différents phénomènes, mais dans la méditation aussi, on peut la diriger vers des sons, des couleurs, des formes à l'extérieur, vers les goûts dans l'assiette. On peut diriger l'attention vers les expériences sensorielles. Quand on veut écouter quelque chose, par exemple, voir quelque chose de précis, l'attention est là pour essayer d'exclure tous les autres données pour uniquement être intéressé par quelque chose. Si vous êtes dans la forêt et que vous entendez le chant d'un oiseau qui vous intéresse, tous les autres sons, toutes les autres expériences, vous allez ne pas vous en préoccuper pour focaliser votre attention uniquement sur ceci. le son de l'oiseau. Ou si vous voulez voir quelque chose au loin, ça sera de voir ceci ou cela, voir un arbre, une plante, par exemple. Donc cette qualité de l'attention, hein, on sait bien de quoi il s'agit, et aussi on sait dans le fond comment l'aborder, comment la développer. Dans la méditation, elle joue un rôle fondamental au début, puisqu'il va s'agir d'utiliser mindfulness, sati tout d'abord, dans le sens de l'attention orientée. On va l'orienter vers un champ d'expérience limité. Sinon, l'attention, l'esprit est trop attiré par tellement d'expériences qu'il n'a pas le temps de vraiment entrer en contact avec ce qui se passe. Ce qui fait que on ne perçoit pas bien les expériences qui surgissent. Parce qu'une expérience surgit une autre, d'une manière assez rapide. Donc on n'a pas le temps de vraiment percevoir ce qui se passe. Donc dans la pratique, l'attention, on va la placer sur un champ d'expérience qu'on appelle la zone d'ancrage et qui permet justement. Qui travaille par exclusion, qui laisse de côté beaucoup d'éléments pour essayer d'entrer en contact avec ceci. En excluant beaucoup d'expériences, on choisit un champ d'expérience unique et on va poser l'attention sur ce champ d'expérience. Comme ce champ d'expérience est assez stable, même s'il se renouvelle, à ce moment-là, eh bien, l'esprit va pouvoir se tranquilliser. Pourquoi? Parce qu'on a choisi un champ d'expérience stable, même s'il se renouvelle d'instant en instant, plutôt que de constamment de passer d'un phénomène à un autre. Donc ceci va permettre de stabiliser l'esprit, de le tranquilliser, le rôle de la zone d'ancrage. Et puis ensuite, quand l'esprit est plus tranquille, à ce moment-là, il est possible que d'autres expériences commencent à être perceptibles. Donc cette orientation de l'esprit vers quelque chose de particulier, voilà, c'est ce qu'on appelle l'attention, ce qui permet la tranquillisation de l'esprit dans le premier aspect de la pratique de la méditation, qui permet d'entrer en contact de manière plus subtile. Mais cette manière d'entrer en contact subtil avec la sphère de la zone d'ancrage n'est pas une limitation. La zone d'ancrage, ce n'est pas une zone de second ordre. Oh, la zone d'ancrage, bon, faut que j'y aille parce que je suis distrait, etc. Non, ce n'est pas ça. On peut aussi découvrir tout le chemin spirituel, la profondeur dans la zone d'ancrage. Pas un problème. Maintenant, pourquoi on ne reste pas uniquement sur la zone d'ancrage dans le développement de la pratique? C'est parce que il se peut très bien que par moment, des sollicitations surgissent qui sont plus fortes et qui font que la zone d'ancrage, eh bien, c'est pas du tout, j'allais dire, dans ce cas-là, c'est pas l'objet de nos préoccupations. Je vous donne un exemple. Je prends des exemples un peu simplistes, mais là vous venez méditer ici, et peut-être que vous avez laissé votre sac dehors avec toutes vos valeurs, quelque chose de simple. Alors vous allez vous asseoir là, oui, mais je ne sais pas, il y a quand même des passages, etc. Je reviens à la respiration, mais est-ce que je l'ai bien mis là ou est-ce que je l'ai laissé dans la chambre? On revient à la respiration. En fait, la respiration, on s'en fout. C'est vraiment la respiration. On a d'autres chats à fouetter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire qu'il y a des sollicitations. Elle est toute simple ici. Un cas pratique, évidemment, on pourrait se lever puis voir si on a bien laissé nos valeurs dans notre sac à l'extérieur. Quelquefois, c'est quelque chose de plus proche de soi. Je médite, je suis sur la zone d'ancrage et tout d'un coup, surgit une inquiétude, par exemple. L'esprit se calme, on perçoit ceci plus facilement. Quand l'esprit est agité, on le perçoit moins, mais quand il se calme, on commence à découvrir toute la richesse des expériences intérieures. Alors là, si surgit une inquiétude, par exemple, eh bien, la zone d'ancrage, elle va à nouveau ne pas être le lieu approprié, puisque c'est pas ce qui m'intéresse, il y a quelque chose qui est en train de me déranger, une inquiétude, quelque chose qui demande mon attention. Donc à ce moment-là, plutôt que de voir l'inquiétude comme un obstacle, c'est l'obstacle, il faut, voilà, l'inquiétude, les pensées, etc., je les élimine, je reviens à la zone d'ancrage, pas d'autres pensées liées à l'inquiétude, ce sont des obstacles, je reviens à la zone d'ancrage, et bien là, on est dans une sorte de méditation forcée, on se force à revenir sur la zone d'ancrage, alors qu'il y a quelque chose d'autre qui demande notre attention. Donc la zone d'ancrage, elle est toujours judicieuse, mais elle n'implique pas de considérer des expériences qui peuvent venir demander notre attention, de les considérer comme des obstacles. On sent très bien, il y a quelque chose là qui demande notre attention. À ce moment-là, on s'y dispose. Mais s'il n'y a rien, dans le contact qu'on va établir avec la zone d'ancrage, on va pouvoir approfondir ceci et découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dans la méditation, l'impermanence, l'absence de moi, la libération, dans la zone d'ancrage. Le problème, c'est que justement, il y a d'autres expériences qui demandent attention, qui vont surgir. Dans le processus de la tranquillisation de l'esprit, donc ce par quoi on commence, eh bien, il y a deux attitudes qui entrent en jeu, qu'on appelle Sati, et la deuxième, c'est Sampajana. La première, c'est donc l'attention, mais aussi la mémoire, on va voir pourquoi. Et la deuxième, c'est la vigilance. La vigilance, c'est ce qui permet de reconnaître ce qui se passe. On sait très bien parfois que tout d'un coup, on réalise, oh, tiens, j'étais perdu dans mes pensées. On met un bon moment avant de se dire, tiens, où est-ce que j'étais? Mais j'étais pas là où je voudrais être. Donc, cette deuxième attitude, la vigilance, c'est ce qui permet de reconnaître ce qui se passe. Ah, là, je suis dans les souvenirs, etc. Donc, ce n'est pas là où j'ai envie d'être. Et la mémoire, ici, donc Sati, si on veut, va ramener l'attention sur la zone d'ancrage. Donc, ce double jeu entre l'attention, la mémoire, et puis la vigilance. Vigilance qui reconnaît ce qui se passe, et puis la mémoire et l'attention qui ramènent dans la zone d'ancrage ou ce qu'on avait déterminé comme objet pour la tranquillisation de l'esprit. Donc il est important de ne pas oublier un des deux aspects. C'est-à-dire que si on oublie de reconnaître ce qui se passe, ben c'est là que tout d'un coup on est perdu et puis au bout d'un bon moment on se dit « Mais oh là là, mais où est-ce que j'étais ? J'étais pas là. » Donc ça c'est un manque de vigilance. Et puis on peut reconnaître, et puis l'attention, elle doit être claire ici pour ramener donc sur la zone d'ancrage. Donc ces deux aspects qui permettent la tranquillisation de l'esprit. Et là, donc on a un objectif même de tranquilliser l'esprit, on a un objectif de viser une zone d'expérience particulière. Dans un premier temps, on est dans une observation, on observe cette zone d'ancrage, on observe l'abdomen, la respiration, et puis moins il est nécessaire d'avoir un effort, plus on va être proche de l'expérience, être en contact avec l'expérience. À ce moment-là, la distance va diminuer. Et d'abord, on est un peu perdu, on dirige l'attention, par exemple, vers l'abdomen, cette distance, et lentement on commence à sentir ce qui se passe, et à ce moment-là, c'est plus la sensation qui s'éprouve elle-même, on est plus dans l'intimité de l'expérience. Premier temps, orientation. Deuxième temps, on commence à être dans une plus grande intimité avec l'expérience. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est là que la pleine conscience est en jeu. C'est à ce moment-là que Vipassana va se développer. Qu'est-ce qui se passe quand on est en contact avec l'expérience, on n'est plus à distance, il n'y a plus cette orientation, et on est simplement on est simplement là dans l'expérience éprouvée, ici, sensation dans l'abdomen par exemple. Donc ici, il n'y a plus d'orientation. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à distance. Il y a une unité de la conscience dans l'expérience elle-même. Il n'y a pas un méditant, une méditante et une expérience, il y a l'unité dans l'expérience elle-même. C'est là, à ce moment, qu'on peut dire que le vipassana va se développer, une vision claire de l'expérience va se développer. On a parlé de la zone d'ancrage, mais ça peut être aussi plus ouvert par moment. On peut se demander, donc, dans le fond, sur quoi faut-il méditer ? On s'assied là, etc. Sur quoi faut-il méditer ? On peut être dans la zone d'ancrage, mais pas uniquement. Donc, je reviens toujours à cette citation de Mahasi Sayadaw, nous méditons sur ce qui surgit dans l'instant. Nous méditons sur ce qui surgit dans l'instant. À nouveau, Mahasi Sayadaw a l'avantage d'être extrêmement clair dans ses instructions. Je vous donne une définition d'Analayo, le moine allemand, Analayo, qui décrit, qui parle de sati. On va voir ce qui me gêne un peu dans cette description. Il dit « L'aspect crucial de la pratique de sati est peut-être de rester dans le moment présent. C'est ce qui compte vraiment et c'est pourquoi il est si important de distinguer clairement la présence, pleine conscience, de la mémoire ou de l'attention. La méditation satipatthana ne consiste pas à se souvenir de quelque chose, mais à être pleinement dans le moment présent. » Là, il y a quelque chose qui me gêne. C'est que dans le fond, le moment présent, c'est rien, ça n'existe pas. Il n'y a pas de moment présent. Il y a une expérience présente. Dans la tradition bouddhique et la tradition occidentale avant Newton, le temps n'existe pas indépendamment. Ça n'existe pas, le passé, le présent, le futur. Ce qui existe, c'est une expérience présente. On mesure la temporalité par les expériences. La perception, une expérience directe, eh bien, c'est ce qui permet de parler de présent. Ce n'est pas le présent qui nous permet de parler d'expérience directe. C'est c'est l'expérience elle-même, donc présente, ce qui veut dire qu'on n'est pas conscient du présent, on est conscient d'une expérience. À chaque instant, il y a quelque chose qui surgit. Sensation, audition, état mental, mais il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas la temporalité, le présent. Et ça, c'est une distinction qu'il est important de faire, parce que, voilà, par moments, il y a un peu une mode sur le présent, on en fait quelque chose d'extraordinaire, le présent. Bon, les anglophones en font un nowness, je ne sais pas quoi, comme si c'était vraiment le lieu privilégié de la méditation. Et ça, c'est quelque chose d'abstrait. Et je sais, dans des retraites qu'on a guidées, de temps en temps, une personne qui disait « Mais bon, le présent, moi, je ne le trouve pas, etc. » Elles avaient raison. Quelle forme il va prendre, le présent ? Il a une couleur, non, il a un son, il a un goût, il a une sensation, il n'a rien du tout. Le présent, c'est simplement une manière de parler de ce qui est là, qui se manifeste dans cet instant. Mais évidemment, il en va de même pour le passé et l'avenir. Il n'y a pas le présent, il n'y a ni le passé, ni l'avenir. Bon, ça nous simplifie drôlement les choses. On nous demande d'être présent, de ne pas se perdre dans le passé, de ne pas se perdre dans l'avenir. Tous ces trucs, ça n'existe pas, ni le présent, ni le passé, ni l'avenir. Bon, on ne sait plus ce qu'on va faire. Saint Augustin, qui s'est beaucoup questionné sur la question de temporalité, c'est assez génial comment il a essayé d'approfondir ceci. Et lui aussi, il dit ici... Personne ne me demande ce qu'est le temps, je sais, mais dès qu'on me demande, je ne sais plus. Il dit, le passé, il a disparu, l'avenir, il n'est pas encore là, et puis entre les deux, il n'y a aucun espace pour mettre quelque chose de présent. Donc, voilà, il dit, ça ne joue pas. Il dit, il ne faudrait pas parler de trois temps, il faudrait parler de trois présents. Il faudrait parler du passé du présent, du présent du présent, et du futur du présent. Il explique le passé du présent, c'est le souvenir. Le présent du présent, c'est la perception. Et le futur du présent, c'est l'attente, le projet. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le souvenir, eh bien, il est là présentement. Un souvenir qui. Le souvenir, il n'est pas hier, il n'est pas il y a 2 ans, le souvenir, il est là. Si on en fait l'expérience, c'est qu'il est là. Donc, le souvenir est dans le présent. C'est pour ça qu'il dit, on faut parler du passé et du présent. Perception, donc, c'est ce qu'il y a de plus clair, l'audition, la vision. Et le futur du présent, c'est en cet instant que je planifie la semaine prochaine, etc. C'est en cet instant que je me perds. Mais je me perds maintenant. Je ne peux pas aller demain, me perdre demain ou me perdre la semaine prochaine. Je n'arrive pas. Même si on essaye, on n'arrive pas. On ne peut pas aller se perdre la semaine prochaine. Tout se passe toujours dans l'expérience présente. Donc le fait d'anticiper ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, par exemple, avec l'inquiétude, l'excitation, ça va être génial, ou je ne sais pas si ça va bien se passer, mais c'est en cet instant que ça se passe. Donc je crois que Saint-Augustin, en s'exprimant de cette manière-là, révèle quelque chose d'assez subtil et qui nous aide bien. Pas dire, ah, je me suis perdu dans le passé, je me suis perdu dans l'avenir. Non, on ne peut pas y aller. On peut se perdre dans l'instant présent, c'est-à-dire on n'est pas conscient de ce qui se passe. Se perdre dans l'instant présent, ça veut dire, dans l'expérience présente, ça veut dire que on est perdu dans le contenu de l'expérience. Si je suis perdu dans mes souvenirs, je ne me rends pas compte que je suis en train de me souvenir. Je suis perdu dans le contenu. De la même manière que je pourrais être en train de regarder la vallée et me perdre. Je me perds, ah, c'est joli, etc. Je m'oublie, je ne suis pas là, je m'oublie parce que je suis fasciné par le lever du soleil, etc. Donc, la manière de se perdre, c'est toujours dans le contenu de l'expérience. C'est ni dans le passé, ni dans l'avenir. On se perd dans le contenu de l'expérience parce que il n'y a plus la conscience de soi dans l'expérience. Il n'y a plus la conscience de ce qui se passe, il n'y a plus que la conscience du contenu. Je suis perdu dans mes souvenirs, c'était génial, c'était terrible, etc. Mais là, j'ai oublié, je n'ai pas conscience que je suis en train de me souvenir. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer, etc. Si je suis perdu, là, je suis perdu. C'est maintenant que j'ai ces images de la semaine prochaine, etc. J'ai ces images-là, mais c'est maintenant. Mais je n'ai pas conscience d'être dans l'anticipation, dans le projet. Vous voyez, le projet, l'anticipation, c'est maintenant qu'il est en moi. Maintenant, je planifie, etc. Mais mon projet, il n'est pas demain, il est maintenant. Donc, on ramène, quelles que soient les expériences, elles ne sont jamais problématiques. Elles ne sont jamais problématiques quand on se rend compte que tout se passe dans le présent. Elles n'ont pas d'autre lieu où elles peuvent se passer. Il s'agit simplement de revenir au fait que c'est un vécu plutôt que le contenu. J'ai parlé avant de l'inquiétude qu'on pourrait avoir par rapport aux valeurs qu'on aurait mises à l'extérieur, mais vous voyez, ou bien l'inquiétude que je pourrais avoir par rapport à ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est le contenu qui me fait croire que c'est la semaine prochaine. L'inquiétude, elle est présente. L'inquiétude, c'est maintenant que je m'inquiète pour ce qui se passera la semaine prochaine. Peut-être la tristesse, la nostalgie par rapport au passé, c'est maintenant. Il y a ces images du passé et c'est maintenant qu'il y a cette nostalgie. Donc, pour nous, tout se joue toujours dans l'expérience présente. Il n'y a pas d'excuse. Tout se passe toujours là, en cet instant. Donc, il y a les perceptions qui peuvent surgir. Donc, sur quoi méditons-nous pour revenir à la phrase de Mahasi Sayadaw, ben, sur ce qui surgit dans l'instant, les perceptions, l'audition. Là, il y a la vision et l'audition, par exemple, sensations corporelles. Mais nos expériences, comme les expériences sensorielles, de vision, etc., de souvenirs et autres, eh bien, elles ont un impact sur nous. On n'est pas des observateurs, observatrices neutres. les expériences que nous avons, visions et autres, elles nous touchent, elles nous affectent. Nous affectent, c'est agréable, c'est désagréable, etc. Et ça, c'est la richesse d'être dans la vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas observateur, je ne sais pas, comme dans un film, on peut être plus ou moins touché par ce qui se passe, mais là, chaque expérience nous touche, nous affecte, et le fait de prendre conscience de cette manière dont nous sommes affectés, c'est une manière de revenir à soi, de revenir dans la vie et d'être présent. Cette sensation agréable que je peux avoir à la vision de la vallée, par exemple, elle est nécessairement moi-même. Si la vallée, je peux me perdre dans cette vision, la dimension agréable, c'est nécessairement quelque chose qui se passe en moi. Ce n'est pas dans la vallée. On pourrait dire par effet poétique, elle est agréable cette vallée. Bon, on sait très bien que ce n'est pas la vallée qui est agréable, c'est la manière dont je suis affecté. Donc, de prendre conscience des sensations affectives, c'est aussi une manière, dans les expériences, d'être en contact avec soi-même, de ne pas se perdre dans le contenu. Et il y en a toujours. Chaque expérience nous affecte. Dieu merci. C'est bien là que nous sommes en vie. Si elle ne nous affectait pas, je ne sais pas, on serait presque des robots, on percevrait, etc. Mais bon, ça ne nous touche pas. Donc ça, c'est une richesse que de se relier aux manières dont les expériences nous affectent. Donc il y a aussi les pensées qui peuvent surgir. Liées aux souvenirs, liées aux projets, liées aussi à la manière qu'on peut avoir de commenter ce qui se passe dans la méditation, d'écrire, etc. Et ce commentaire, c'est toujours être à distance de l'expérience. L'expérience n'est jamais le commentaire. Alors ça peut être quelquefois rassurant, on essaie de le décrire pour se rassurer, pour essayer de contrôler, pour essayer d'approfondir, mais l'approfondissement ne se fait pas par une évaluation mentale, l'approfondissement se fait par une plus grande sensibilité, par une plus grande intimité à l'expérience. Donc les pensées en elles-mêmes ne sont pas des obstacles. C'est aussi la richesse d'une existence humaine. C'est des obstacles quand on se perd, quand on les prend pour ce qu'elles ne sont pas, pour la réalité. On parlera certainement d'autres soirs de ces choses-là. On peut dire qu'il y a aussi des manières d'être, des états mentaux, si vous voulez, comme la tranquillité, l'agitation, la somnolence, la confusion ou la patience ou la bienveillance qui peuvent surgir. Et là, c'est bien aussi d'en prendre conscience. Prendre conscience de l'agitation. Tiens, voilà ce qui se passe. Sans immédiatement vouloir s'en libérer, parce que si on veut éliminer l'agitation, on en a fait un obstacle et on est en train de se projeter vers le futur. Je veux un futur sans agitation. On ne peut plus être présent. Quand il y a de l'agitation et qu'on veut rester présent, on ne peut pas vouloir la tranquillité. Bon, alors on est mal barré. Où se trouve la tranquillité quand il y a de l'agitation et qu'on essaie de rester présent? Dans l'agitation. C'est simplement dans l'expérience de l'agitation, si on peut en faire l'expérience très clairement. Quelquefois, il y a des pensées qui sont sous l'agitation, mais la solution à nos expériences n'est jamais à l'extérieur des expériences. Jamais. Maintenant, il y a des expériences, quelquefois trop difficiles, des angoisses immenses, etc. Il faut les gérer, on va se promener, etc. On ouvre les yeux, donc c'est vrai que des fois le défi est trop grand, mais la solution est toujours dans l'expérience. C'est génial. L'expérience, elle amène sa propre possibilité de résolution. Ça, c'est de l'homéopathie. Hein. Mais si on prend ceci comme des obstacles à ce moment-là, alors on entre en conflit. On va chercher la tranquillité à l'extérieur de l'expérience, à l'extérieur de l'agitation. Et à ce moment-là, on est en conflit, on cherche autre chose. Mais dans les états d'esprit positifs, comme la patience ou la bienveillance aussi, il est bien d'en prendre conscience, ou quand il y a la tranquillité, par exemple, de se rendre compte de cette qualité de l'esprit. Ça permet simplement de la valoriser, de la stabiliser. Ah tiens, là, pas seulement se rendre compte quand il y a des difficultés, mais quand par moment, tiens, il y a une qualité de l'esprit qui, pour moi, est plutôt plaisante, ou va dans ce que j'essaie de cultiver, d'en prendre conscience. Patience, bienveillance. Toutes les expériences sont toujours nouvelles. On ne peut pas faire une expérience ancienne. On ne peut pas revivre ce qu'on a vécu. Même si hier j'ai eu une expérience extraordinaire, je veux à nouveau cette expérience, c'était chouette. Ben, pas possible. Hier, il y avait un certain contexte. Maintenant, ce qui a permis à cette expérience de surgir hier, c'était une disponibilité. Peut-être que maintenant, je peux avoir la même disponibilité qui ne fera pas surgir la même expérience, mais qui permettra à nouveau d'avoir cette même sensibilité. Donc, chaque expérience est singulière. D'instant en instant. Aucune expérience ne s'inscrit dans la durée. Donc, c'est un aspect important de la pratique, on va certainement en parler encore. Maintenant, on m'a posé la question de la différence entre ou que veut dire une méditation ouverte, open awareness, ou je ne sais pas comment on peut l'exprimer d'ailleurs en français. Donc je crois là aussi qu'il y a pas mal de peut-être de confusion sur le terme méditation ouverte, etc. Méditation ouverte, dans le sens qu'on veut lui donner ici, n'est pas une particularité de l'attention, mais de la pleine conscience. Ça veut dire que une conscience ouverte ne vise pas un objet vaste. Une conscience ouverte ne vise pas un objet vaste, qui sera une limitation. Une conscience ouverte est une conscience qui ne vise rien du tout. Elle vise rien. C'est donc pas l'attention, mais c'est la qualité de présence. Quand il y a cette qualité de présence, pleine conscience, cette pleine conscience est là avec ce qui est là dans l'expérience elle-même. Toute pratique qui a une visée, elle ne peut pas être ouverte. Même si cet objet, il est vaste, ça sera quand même toujours une visée, ça sera une méditation qui sera limitée. Et si la méditation ouverte comprise dans ce sens-là vise un objet vaste, eh bien elle va percevoir des expériences comme des obstacles. La somnolence, l'agitation, tout ça va être perçu comme des obstacles. Alors que dans une méditation ouverte, conscience ouverte, rien n'est perçu comme obstacle. Rien n'est perçu comme obstacle parce que rien n'est à l'extérieur de l'expérience qui surgit. Donc si on veut explorer la méditation ouverte, parfois, eh bien, il s'agit de revenir à l'attitude. C'est une attitude, ce n'est pas un objet, c'est une attitude d'ouverture qui est libre de toute visée, de toute attente, de toute intention. Mais évidemment, ces méditations libres de toute intention, ça demande beaucoup de sensibilité, Mais si on veut découvrir ce que veut dire méditation ouverte, eh bien c'est dans ce sens-là qu'on peut l'explorer. Pas viser quelque chose, même quelque chose de vaste, et puis ensuite on laisserait les choses surgir. Et une méditation vaste, c'est pas comme si on avait une lampe de poche, puis on regarde les choses les unes après les autres dans un grenier. Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est ça. Oh, il y a plein de choses, etc. Moi, je ne me fixe pas sur une chose. Ça reste une méditation qui est focalisée sur une chose après l'autre, mais qui n'a pas du tout la qualité d'ouverture quand il n'y a pas d'intention. L'absence d'intention, ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est quelque chose qui est totalement cohérent avec la qualité de présence. Comment est-ce qu'on peut être présent si on vise quelque chose? On ne peut viser que ce qui n'est pas présent. On ne peut pas viser quelque chose qui est présent. S'il y a quelque chose qui est présent, on en fait l'expérience, on le goûte, mais viser quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas là. Donc si on parle de mindfulness, dans le sens d'être présent à l'expérience qui surgit, ben elle est là, on ne va rien viser. Et à ce moment-là, cette expérience, quelle qu'elle soit, même si c'est une expérience d'une sensation, je vais dire, dans une partie du corps, dans un petit doigt, etc., elle n'est jamais limitée. Elle est une expérience ouverte. Mais de se concentrer sur un espace vaste, eh bien ça c'est quelque chose de fermé, qui verra l'agitation, les pensées, etc., comme des obstacles. Donc on revient à cet aspect extrêmement simple que la pratique de la pleine conscience, quand on a cette sensibilité, on est en train de, on chemine, ça ne veut pas dire ah, aujourd'hui je pratique la pleine conscience. Non, on pratique d'abord l'attention à quelque chose, à une zone d'ancrage, et lentement, cette sensibilité se développe, et parfois, tout d'un coup, on se rend compte que on est vraiment là. Je me rappelle une phrase de Maurice Blanchot, cet écrivain, qui disait « Présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir. Présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir. » Il exprimait ceci très clairement. Dans la conscience de l'expérience présente, on ne peut pas la faire. On ne peut pas la faire. On la ferait avec quoi et de où? On la ferait avant qu'elle soit là? Présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir, parce que c'est une manière d'être, ce n'est pas une manière de faire. Donc voilà une sorte de survol, mais pour nous, pour la pratique, c'est simple. On revient, on recommence toujours par la zone d'ancrage, etc., pour développer cette sensibilité. Par moment, elle est là, on a moins besoin de diriger l'attention, il y a une plus grande intimité. Mais si c'est nécessaire, on dirige l'attention vers une zone d'ancrage. Et on choisit toujours une zone d'ancrage la même, où on peut établir une sorte de familiarité, si on veut, et qui permet l'approfondissement. On commence par ceci. Et puis par moment, il y a cette qualité de présence où on se rend compte que, hein, il n'y a ni avant ni après, et que le passé et le futur n'ont pas de sens. Voilà quelques remarques. Avec beaucoup d'éléments, mais pour revenir un petit peu au sens de et l'attention sur quelque chose, et quand la pleine conscience se développe, on est en intimité avec l'expérience elle-même. Mais pour nous, la pratique, c'est toujours commencer en menant l'attention sur une zone particulière, jusqu'à ce qu'il y ait cette intimité, et qu'à ce moment-là, l'intention, elle tombe, elle n'a plus besoin d'être là.